La voix est libre.
Et vous savez quoi, c'est l'heure de la basse, j'y suis avec Daniel Mermet et son répondeur.
Bonjour, je voudrais vous raconter une fable contemporaine. C'est l'histoire d'un vieux politicien qui arrive en fin de carrière et qui n'a plus rien à prouver, à attendre ou à perdre. Ce vieux monsieur a une fille dont la carrière politique, en revanche, est pleine d'avenir et de promesses. Et comme tout bon père aimant, il souhaite aider sa fille à réaliser ses ambitions. Il profite donc d'un entretien avec une journaliste, vieille connaissance, amie d'enfance de sa propre fille, mais c'est sûrement un hasard, pour proférer une belle, une grosse, une splendide énormité dont il a le secret et l'habitude. Il sait pertinemment par expérience l'effet que cela va produire, emballement des médias et indignation générale. Il adore ça, mais cette fois, ça n'est pas pour lui qu'il le fait, mais pour sa fille, pour lui permettre de se démarquer, de le désavouer et de donner ainsi d'elle-même l'image d'une personne pleine de raison, de modération et d'intégrité, puisqu'elle n'hésite pas à recadrer son bougre de père. « Non, papa, lui dit-elle, on ne peut pas brûler Bruel. En tout cas, pas tout de suite, et de toute façon, on ne peut pas le dire. » Et tous les braves gens de s'exclamer « Vous voyez, quelle force, quel talent, quel courage politique. C'est une vraie démocrate. » Joli coup, simple, efficace. Depuis 4 jours, ils font le buzz dans les médias. Et le vieux malin vient d'offrir à sa fille, et pour pas grand-chose, un joli certificat d'honorabilité. Ce qui, dans sa profession, a pour synonyme le mot « éligible ». J'imagine qu'elle a dit « Merci papa ». Il a dû répondre « C'est rien ma chérie, on le refait quand tu veux ». C'était Eric de Toulouse.
Si l'Eric n'était pas là, et patata et patati, Michel Sardouille, quel talent. Bizarrement, mon père, lui, a gardé un souvenir mitigé de l'arrivée des Américains. Qu'il était jeune homme, il se souvient que le Havre a été dévasté par les bombes alors que les Allemands étaient en train d'en partir à la catastrophe. Il se souvient que la présence des Américains au Havre ressemblait fort à une sorte d'occupation. Il se souvient que les femmes ne pouvaient plus sortir à la nuit tombée, tant les viols étaient nombreux dans la région, comme partout ailleurs où les Américains sont passés. C'est un truc qui est resté longtemps tabou et dont on ne parle que depuis quelques années, voire un documentaire intitulé « La face cachée des libérateurs ». Il se souvient des agressions de dockers à qui les Américains venaient faucher des marchandises. Il se souvient que ce n'est pas sans raison si on a vu fleurir sur tous les murs de France les mots « US go home ». Il se souvient que finalement, il a commencé à aimer les Américains lorsqu'il est monté à Paris et qu'il a découvert les premières boîtes de jazz. Voilà, c'était une autre vision du débarquement.
Bonjour Daniel et bonjour à tous les AMG. Un traité pouvant en cacher un autre, on parle beaucoup ces derniers temps du GMT, le Grand Marché Transatlantique, mais j'ai appris très récemment qu'il y a un autre traité qui, bien évidemment, comme le premier, est en pourparlers dans le dos des peuples et qui s'appelle TISA, ça c'est l'acronyme en anglais. En français, ça s'appelle l'accord sur les services publics et qui vise à supprimer définitivement et de façon irréversible tous les services publics des 27 ou 28 pays qui sont en pourparlers autour de ce projet TISA, dont le point d'orgue est bien évidemment la privatisation de tous les services publics. Merci beaucoup pour ton émission. Au revoir.
Salut Daniel, t'appelles parce qu'aujourd'hui, aux informations, j'ai entendu que le gouvernement algérien donnait 2500 euros pour chaque Algérien qui souhaiterait aller soutenir l'équipe d'Algérie à la Coupe du Monde au Brésil. 2500 euros. Si je fais mes calculs, ne serait-ce que 1000 personnes, hein, c'est faisable 1000 personnes pour un pays comme Algérie. Donc 1000 personnes par 2500 euros, ça fait 2 500 000 euros. Rien qu'avec ça déjà, on construit une école. Voilà le monde dans lequel on file du pognon pour aller supporter l'équipe nationale, mais par contre, pour les écoles, pour les hôpitaux, la santé, etc., ça, on n'en a rien à foutre. Et ce qui est plus triste là-dedans, c'est que certains Algériens, ils sont contents. À mon avis, ils vont pas montrer dans les médias les gens qui sont pas contents. Mais il y en a beaucoup qui disent, c'est bien, bah, ils font pour le peuple, pour les jeunes, etc. Bah, moi, quand j'ai entendu ça ce matin à la radio, bah, franchement, ça m'a dégoûté, mais vraiment dégoûté. Voilà, c'est le coup de gueule du jour. Bonne fin de journée. Ciao.
Merci pour tous ces messages. Chers AMG, alors ça y est, on est de foot-foot. Hein, ça y est, on est fou de foot. Les critiques de la FIFA, les questions sociales, la question sociale au Brésil, face au football, avec le football, que choisir, ça va être une histoire très compliquée, très riche, très intéressante. Le football étant un phénomène, on peut dire politique complet, ça se présente évidemment comme l'endroit et l'activité où on ne fait pas de politique, et évidemment c'est là où il y en a le maximum, on le voit à travers effectivement ce gouvernement algérien qui finance le déplacement des supporters, et on va essayer de partir au Brésil la semaine prochaine, on sera probablement au Brésil, et on vous racontera ce qu'on voit. Mais il y a une chose qui sera très délicate de vous raconter de là-bas, du Brésil, c'est le vaudou. Ah, le vaudou. Eh oui, le vaudou, la magie, les fétiches, tout ça est très important dans le football, et très important au Brésil, le candomblé. 8 millions, ils sont les Brésiliens à pratiquer le candomblé, issu du vaudou, cette religion, née au Bénin, oui, ex-Dahomey. Et c'est là que nous allons. Nous allons entre fétiche et football. Pensez-y, amis footballeurs, amis entraîneurs, amis supporters, attention aux fétiches foot et vaudou au Bénin. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour Daniel, les chercheurs se mobilisent et le conseil scientifique du CNRS a alerté sur la situation de l'emploi scientifique au CNRS et les sombres perspectives pour la recherche et l'enseignement supérieur. Pour peser dans le débat public sur l'emploi scientifique, aujourd'hui, une session plénière des 1200 membres du Comité national de la recherche scientifique est convoquée rue des Saint-Pères à Paris. Si nous ne nous mobilisons pas tous, on ne va jamais y arriver. Donc, une manifestation partira de la Sorbonne à 14h30 pour se rendre sous les lieux de la session extraordinaire rue de Saint-Père à Paris. Rien qu'au CNRS, les effectifs ont chuté de 800 postes en 10 ans. La précarité explose et on a 80 000 personnes dans l'enseignement supérieur et la recherche qui sont sous des postes précaires. Un effort est nécessaire pour relever le niveau du pays dans la concurrence internationale, y compris pour la relance industrielle, et arrêter la spirale des emplois précaires, améliorer la qualité de travail et relancer l'attractivité de nos métiers pour la jeunesse. Venez tous à 14h, place de la Sorbonne, pour un départ vers la rue des Saint-Pères devant la session extraordinaire du Comité national de la recherche.
Bonjour à tous. Le prochain Café Repère de Bressuire dans les Deux-Sèvres aura lieu ce vendredi 13 juin. Le thème de cette rencontre est le suivant. Les logiciels libres nous ont amenés à penser autrement. Peut-on aller vers une disparition des brevets? À cette occasion, nous aurons le plaisir de recevoir parmi nous des membres de l'association Gébule, utilisateurs de logiciels libres. Donc venez écouter, échanger, débattre avec nous ce vendredi 13 juin à partir de 19h30, salle de la gare de Fret à Bressuire. Merci, Éline.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Guy Vanctil. Là-bas, si j'y suis, au Bénin.
Flight number 2, arriving from New York.
Deux lumières dans la nuit à Cotonou, dans le quartier de Placodi. Deux lumières proches en forme de fable. Une image fable pour commencer ce voyage au Bénin. Sur une chaise, une télé. Ah, personne ne regarde. Si, un gars accroupi qui se sert de la lumière de la télé pour réparer un gros pneu. Il est réparateur de pneus. Et la lumière de la télé, c'est pratique, finalement, pour coller les rustines. Voilà pour la première lumière dans cette nuit de Cotonou. Juste à côté, une autre lumière qui vacille, elle aussi. C'est la lueur d'une bougie. Au coin du mur, dans une cuvette d'émail bleue, pleine du sang rouge d'un poulet, un initié au vaudou est en train de baigner dans le sang des fétiches, c'est-à-dire des statuettes. Et il fait des incantations à voix basse. Voilà, deux lumières dans la nuit de Cotonou, Bénin, ex-Dahomey. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous habitons une terre de contraste ? Ça veut dire qu'il ne faut pas confondre modernité et tradition ? Ça veut dire qu'il y a un fossé entre les civilisations ? Ça veut dire que le dialogue est impossible ? Ça veut dire qu'il y aurait une sorte de fracture mondiale ? Peut-être que vu de là-bas, on se comprendra. En route, pour une Afrique non pas souffrante, celle des charniers, non pas exotique, folklore, magique, masque nègre en forme de parapluie, non pas une Afrique terrain de nos petites expériences exotiques, charitables et généreuses. Non, c'est Afrique dont on revient avec l'énergie, avec la vie, avec la jubilation, malgré tout, de vivre et d'en mettre jusqu'au plafond. Tout ce dont l'idéologie de domination et donc de culpabilité dont nous sommes imprégnés jusqu'à l'os nous a empêchés de voir, d'aimer et de partager. C'est vers cette Afrique-là que nous partons aujourd'hui sur France Inter, là-bas si j'y suis, au Bénin. des mobs comme celle-là, il y en a 30 000 dans Cotonou. Ouais. Ce sont des taxis, des petites motos-taxis. Ça roule dans tous les sens, c'est pratique, c'est pas cher, ça transporte tout, partout. Les gars portent des blouses jaunes avec des numéros d'immatriculation imprimés dans le dos. Petit boulot, grande débrouille, ça transporte tout du fonctionnaire sec à la mama, bien en chair, avec 3 tonnes de mangue, de bananes, de chèvres et de poulet sur la tête. Ou bien alors le genou branché, visière en arrière, avec sa radio sous le bras qui crache Jonas Pedro ou Angélique Kidjo ou Africando. Ici, on adore... Quoi donc ? La salsa. Eh oui, on adore cette musique. Alors évidemment, ces mobs, ces moteurs à deux temps, ces taxis-motos font une pollution d'enfer. Ça pollue terriblement, surtout quand le temps est humide et chaud, comme les putes de Jonquet, ou bien rêche, quand souffle l'harmattan et que tout est rouge poussière sur la lagune. Les arbres sont si rouges alors qu'on raconte que c'est le sang des morts, ce rouge. Les âmes des morts descendent d'Abomey par le fleuve Ouémé pour gagner la mer, et chaque mort passant dans la lagune laisse un peu de son sang qui va rougir les écorces. Cotonou, c'est la lagune des morts. Vous avez vu, on est passé en une minute des mobilettes, de la circulation, de la vie de la ville à tout de suite au sacré. Eh bien, c'est la même chose. La mobilette n'est pas profane. La télé n'est pas profane. Tout est sacré. Rien ici n'est inanimé. Tout est animé. Animé, c'est l'âme. Anima. Pourquoi on est au Bénin ? Oui, c'est pour le vaudou, pour essayer de piger cette force extraordinaire qu'est le vaudou. 50 millions d'hommes, de femmes, d'enfants à travers le monde sont concernés par le vaudou. Le vaudou est parti d'ici, est parti du Bénin avec les esclaves, et ces malheureux esclaves sont partis vers la Caraïbe, vers les Amériques, emportant ce culte, cette religion, parce que c'est une religion, avec eux. On va d'abord voir dans la vie quotidienne. On va au stade de Cotonou. S'il y a une chose que les Béninois, comme tous les Africains, adorent, évidemment, c'est le foot. Et là, c'est un petit match, tranquille, un après-midi, comme ça, les tribunes sont à moitié pleines seulement. Ce qui nous intéresse, c'est de voir comment ça marche. Les fétiches, les gris-gris, les sorciers, le rôle du vaudou dans une chose aussi quotidienne que le foot. Voilà monsieur Asino qui se trouve là. Il est superbe, il est souriant, il est entraîneur, il fut gardien de but, il est entraîneur, non seulement entraîneur, mais il est également, figurez-vous, agent de police.
Là, il y a les dragons qui sont en orange noir.
Ouais.
Ce sont eux qui prennent la balle là. Ouais. Et les verts et blancs, c'est les postels.
Postel, c'est quoi ?
L'équipe de la poste.
Ah, poste et téléphone. Donc
c'est un
match qui compte pour quoi ? Poste et téléphone contre
dragon ? Non, c'est pour le championnat national.
Ah, mais c'est important alors.
Ouais. C'est parce que là, il y a eu une faute sur un joueur et le public désapprouve l'attitude. Ah oui, c'est une grande passion pour lui.
Racontez-moi comment vous préparez un match de foot ici, à côté.
Bon, en dehors de l'entraînement, qui est la préparation normale d'un match,
ouais.
Bon, psychologiquement, et certains ont bien besoin d'un autre soutien. Et ce soutien, on l'appelle parfois chez nous le beau, c'est le gris-gris, quoi. Et dès qu'on a un match, bon, les vieux vous préparent le match en vous disant si vous avez tel produit sur le corps, vous ne serez pas blessé, par exemple. Vous aurez beaucoup de chance. Vous tirez et vous gagnez le premier. Ou bien on tire vers votre poteau. L'adversaire qui veut tirer dans votre poteau voit le poteau. Mais lorsqu'il finit de tirer, il tire à côté.
Alors, on m'a dit par exemple qu'on pouvait. Il arrivait qu'on transporte toutes les chaussures.
Oui, vers un charlatan. On transporte toutes les chaussures, on les expose quelque part. Les maillots également, on les met là. Il met peut-être quelques poudres. Il met
les chaussures.
Aussi les chaussures. Il peut mettre quelques. Il peut bénir ça de quelques eaux. Et il prononce des incantations là-dessus. Dès que le joueur prend ses chaussures, il pense que c'est des chaussures qui lui donnent un peu plus de force.
Ah, comme s'il y avait des ailes après les chaussures.
Voilà.
Ah.
Donc, bon, je crois que...
Il va courir plus vite.
Il va courir plus vite.
Plus de précision.
Dès qu'il va cogner peut-être son adversaire. L'adversaire tombe et lui, il s'en va. Parce qu'il y a plein de trucs comme ça en Afrique. Dans le bon vieux temps, et pendant que moi j'étais encore gardien, j'avais un guérisseur qui m'avait donné une aiguille. Dès que vous rentrez dans un poteau,
dans un but,
dans vos 7m32, vous enfoncez l'aiguille et au côté gauche, à côté du montant gauche. Ça multiplie vos chances. C'est comme si vous attirez la balle vers vous. Et ça permettait quand même, en ce moment-là, de faire beaucoup d'exploits. Mais dès que vous connaissez l'aiguille, par exemple,
ouais,
qui fait ça,
ouais,
il y a peut-être un autre qui connaît un produit qui, jeté dans ce poteau-là, anéantit l'action de l'aiguille. Et vous revenez à égalité.
0-0.
0-0.
Alors, dans les tribunes, les oui, supporters, eux oui, aussi, ils ont des choses
oui,
magiques. Qu'est-ce qu'ils font?
Bon, vous constaterez sur certains terrains, il y a des sectes, des groupes de féticheurs qu'on amène au terrain et qui viennent comme des supporters. Le groupe de féticheurs arrive
ouais,
avec leur tam-tam sacré,
ouais,
avec les paroles sacrées, les chansons sacrées.
Ouais.
Et ils viennent chanter ça au stade et cela remonte le moral à tous ceux qui y croient.
Aux supporters.
Aux supporters et aux joueurs.
Et aux joueurs.
Oui, les gens trouvent que vraiment si tout ça là est mis en branle, c'est que la victoire est de notre côté.
Ouais. Mais alors, est-ce que ces féticheurs-là peuvent jeter des sorts pendant le match? Est-ce qu'ils peuvent jeter des sorts comme ça au...
Directement, c'est difficile.
Pourquoi c'est difficile?
C'est difficile parce que celui qui est en train de jeter le sort, lui aussi, craint les revers de ce sort-là. Donc, il ne le jette pas n'importe comment. Le gris-gris est forcément important en ce sens que nous sommes tous issus de familles ayant ça ayant ça à l'origine.
Bien sûr.
Le gris-gris. Bon, donc, comme quand vous voulez jouer, on va vous dire pour vous maintenir en forme, pour avoir de chance, pour éviter que votre équipe ait des comportements incorrects. On peut vous faire certaines choses pour que vous puissiez aller à ces matchs-là. Mais beaucoup plus maintenant, c'est ça. Ce n'est plus pour aller forcément gagner. Sinon, nous avions dit que les charlatans auraient créé leur équipe et auraient pu gagner des matchs. Mais vous savez, l'équipe n'est pas seulement que les joueurs et l'entraîneur. Il y a les dirigeants et qui ont une honorabilité à défendre. Et cette honorabilité les amène à faire des choses à l'insu parfois des joueurs. Nous avons chez nous, par exemple, quelque chose que nous appelons le tchakatou. Ça, c'est tout comme un fusil invisible.
Ah.
Un fusil invisible. Et vous êtes en train de jouer. Celui qui est maître de ce tchakatou peut, à distance, vous neutraliser. Il peut agir sur vous par des radiations que vous ne verrez pas. Bon, mais ça... Comme vous ne pouvez pas savoir toujours comment l'autre s'est protégé, en l'envoyant, vous pourrez atteindre votre joueur.
Ah, c'est-à-dire que vous avez...
La cible peut changer.
Par exemple, vous avez un tchakatou, mais moi, je me suis mis une sorte d'armure contre le tchakatou.
Voilà.
Ah.
Dans ces conditions-là.
Donc, ça peut rebondir.
Ça peut rebondir sur mon partenaire.
Ah.
C'est ça. Mais ça ne continue pas beaucoup sur le terrain. Parce que pour que ça vienne sur un terrain, c'est tout un scénario.
Quel est le scénario?
Ah, il faut lui trouver le cadre idéal pour que le gars, celui qui est le propriétaire du tchakatou, puisse s'exprimer. Or, et dans les matchs, nous, la police, on arrive par exemple au terrain, on nettoie tous les alentours. On demande à tout le monde de monter dans les gradins. Or, dans les gradins, lui ne peut pas avoir son matériel et opérer.
Ah, parce que le tchakatouille, c'est un matériel qu'il faut avoir avec
ça. C'est un matériel qu'il faut avoir.
À quoi ça ressemble ?
Qui n'est pas grand, hein, qui n'est pas grand. Ça peut tenir dans un sac. Mais pour ne pas blasphémer, pour ne pas dévoiler des choses qui demeurent secrètes jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas vous dire comment c'est confectionné.
Ah, mais vous le savez, mais vous ne pouvez pas me le dire.
Je sais, je sais. Il y a tout un parapluie d'ingrédients dedans.
Alors voilà comment ça marche dans le foot à Cotonou, mais c'est rien du tout. Là, on nous dit des petites choses comme ça pour Yovo, hein, pour le blanc-bec qui arrive. Ça va bien plus loin que ça. Et je vous le disais, toute la vie, tous les moments de la vie sont ainsi... plein de ces pratiques, les féticheurs de Cotonou, de Nantokpa, le marché central de Cotonou, vous racontent comment, par exemple, si vous avez un problème avec votre patron qui veut vous licencier, bon, votre patron, vous virez, oui, le chômage gagne aussi l'Afrique, et ben quoi faire ? C'est très simple, vous apportez une mèche de cheveux du patron, s'il fume, vous apportez des mégots, et puis si possible sa photo, hein, vous piquez la photo du patron, vous amenez tout ça au féticheur de Dantokpa, et voilà, pas de problème, il est capable de paralyser à distance chaque fois qu'il voudra vous licencier. Il se met à vous licencier, par exemple, il signe le papier licenciement, paf, hop, il est paralysé. Et pour revenir au foot, on nous a dit à plusieurs reprises que les entraîneurs d'équipes françaises ou européennes viennent à Cotonou, et oui, pour essayer d'acheter très cher les pouvoirs de certains féticheurs qui sont donc capables, depuis Cotonou, d'envoyer un scud sur, je ne sais pas, l'équipe d'Auxerre ou le PSG. Pour l'instant, on assiste à ce match à Cotonou et pendant la mi-temps, essayons de nous approcher de ces sacrés gaillards que sont ces joueurs.
Tu peux trouver un joueur qui n'est pas en train de jouer tout de suite. Il dit qu'il veut parler.
On va le voir.
C'est notre chose à nous en Afrique. Donc on y croit sincèrement. Bon, on ne peut pas laisser tomber ça.
Ouais.
Même si bon, on se dit maintenant que c'est le travail qui paie. D'un autre côté, on pense aussi que ça peut toutefois dire. C'est aussi un dieu. En général, il y a des balafres qu'on fait au niveau de la poitrine.
On se fait des balafres sur la poitrine.
Oui, des choses
avec
comme
quoi
ça. Avec une lame, on met des choses dedans. Bon.
Des scarifications.
Oui, des scarifications.
Hein, on porte encore des bagues.
Là, tu portes des bagues,
magique. Non, moi, c'est pas. Non. Des bagues magiques.
Des bagues magiques.
Des poudres magiques.
Des poudres magiques.
Des poudres pour anéantir l'adversaire.
Des cordons à mettre.
À la ceinture.
Des cordons que tu mets à la ceinture.
On met, et le moins.
Non, mais pas toi.
On met à la ceinture pour être soulagé, pour que les passes soient précises et les têtes soient tendues.
Il y a aussi, par exemple, toujours des fils qu'on met autour du bras.
Oui.
Et là, quand tu transpires, si ta sueur arrive à tomber sur ton adversaire, partout où tu passes en duel avec lui, il te laisse passer.
Oh, costaud.
On fait encore comme chewing-gum.
Comme
chewing-gum, tu mets dans la bouche et l'adversaire qui est là t'oublie. Il va t'oublier.
Il te voit plus.
Il te voit plus. Et tu le dépasses 5 mètres, 10 mètres avant qu'il ne te voit. Là, tu es déjà auprès des buts.
Je suis un goal moi, mais il arrive des matchs où je constate l'avancement. Juste au début de la rencontre, quand il vient vers moi, il me lance des choses dans le filet.
Il te lance quoi ?
Il me lance des choses dans le filet, des produits, sinon bon, des poudres parfois
pendant,
dans le filet.
Pendant le match ?
Oui, pendant le match. Au moment où ils font une contre-attaque, lui vient dans la petite surface, il jette ça dedans. Histoire de lui permettre de m'aveugler et puis de marquer des buts, mais ça ne marche pas toujours.
Comment tu te défends toi de ça ?
La croyance, si tu crois en ça,
c'est un problème.
C'est terminé. Tu es juste là abattu psychologiquement. Ne crois pas au fétiche. Joue tes contre-attaques.
Moi, on m'a raconté des histoires de chaussures qu'on emmène chez le charlatan.
Oui, aussi. Et comme si tu portes de pareilles chaussures, tu tires, le gardien ne pourra jamais arrêter ça. Même il y a des tiges qu'on met dans les bars.
Des tiges que tu mets dans tes chaussettes?
Des écorces, quoi, des racines d'arbres.
Tu es léger, tu as le poumon.
Avoir le poumon, c'est quoi? Le souffle.
Souffle, tu as le souffle et tu es léger.
Oui, oui. Les fétiches restent dans la tribune. Là. Les fétiches, là, ils sont dans la tribune. Ici, là, c'est la dirigeante seulement. Tu vas dans la tribune maintenant, tu vas trouver les fétiches.
C'est lui qui nous prépare les choses.
C'est lui
qui prépare.
C'est lui.
C'est le préparateur. Moi, je suis un kiné. Je suis le soignant de l'équipe. Moi, vraiment, nous sommes en Afrique. Comme c'est inculqué dans le crâne des Africains qu'il y a quelque chose de ce genre, il y a certains qui y croient. Mais à vrai dire, c'est le travail qui compte. Le plus souvent, la plupart des équipes le font à distance, dans l'arrière-cour. Bon, et puis au niveau des joueurs, nous n'avons jamais accepté qu'on les perturbe. Moi, en tant que kiné, on est farouchement opposés, comme une ligne. De toute façon, toucher à l'intégrité du corps humain avant le match, je suis contre.
Attention !
Parce que d'autres font les préparations à partir de là-bas. Donc nous, on n'est jamais d'accord.
Quelle préparation ?
Mais vous parlez de fétiches, non ?
Qu'est-ce qu'ils font comme préparation exactement ?
Oh là là ! De toute façon, je ne peux rien dire.
Ah bon ?
En tout cas, en tant qu'Africain, il m'est difficile de me prononcer là-dessus.
Ouais, enfin, vous savez, hein, bon, chaque pays a ses secrets. Vous parlez de fétiche. Hein. Bon, pour nous, par exemple, le fétiche que nous on connaît, hein, c'est le beau spectacle pour nous.
Dis-lui la vérité, si ce que tu sais.
Hein, c'est pas ça qui va enlever le bébé que tu as.
Impression d'une région prospère et forte, aux habitants intelligents, qui pourront peut-être, d'ici pas tellement de temps, donner du fil à retordre aux actuels occupants. Ainsi écrivait Michel Léris en 1931, traversant ce qui était alors le Dahomey, et comme il l'a raconté à travers ce livre qui s'appelle « L'Afrique fantôme ». Les occupants de l'époque, eh ben, c'était les Français, c'était les colonisateurs français, les administrateurs coloniaux. Ces pays furent longtemps occupés, diversement occupés. Après l'indépendance, il faut rappeler que le Bénin, qui s'appelle comme ça depuis 1974, a été jusqu'en 1990 ou 11 un pays marxiste-léniniste. On appelait ça le laxisme béniniste, d'ailleurs, à un moment. Mais enfin, il est possible que les occupants aient changé, mais ceux qui sont toujours là et seront là très très longtemps au Bénin et dans cette région, c'est évidemment les dieux. Xango, chante Angélique Kidjo. On a vu la présence des esprits, des divinités dans un stade. Alors on va essayer de comprendre un peu mieux ce qu'est ce vaudou. Il y a des analogies avec nos religions à nous. C'est pas si éloigné, si mystérieux. Il n'y a pas tradition d'un côté et modernité de l'autre, évidemment. Il y a des hommes qui, sous certains climats, à certains moments, tâchent de donner des explications aux énigmes. L'homme ne se résout pas à ne pas apprivoiser le hasard, à ne pas développer des stratégies avec les mystères, qu'il soit un philosophe, qu'il soit un scientifique, ou bien qu'il soit un croyant. Voilà Eustache Prudencio, qui est un écrivain, qui est un homme très respecté dans son pays, qui était l'intellectuel, et qui nous donne une définition, et c'est pas facile, du vaudou.
Selon les ethnies, vous avez plusieurs significations du vaudou. D'abord, dans le mot vaudou, vous avez le mot doux, qui signifie une espèce d'énigme, quelque chose qu'on ne comprend pas. Quand le bokonon, le charlatan, veut vous faire une consultation, vous faire parler l'oracle, comme on dit, le fa, eh bien, il y a certains signes qui se présentent. Il jette ses demi-noix de pommes ou ses coris, où il trace de petits traits. Et il y a une certaine chorégraphie qui se présente. C'est ça qu'on appelle le doux. Vous, profane, vous ne comprenez pas. Mais lui, il peut vous interpréter ce doux. Mais l'idée de puissance de Dieu, c'est une énigme vraiment à part. Ça sort du commun. Ce doux est à part. C'est ça qu'il faut entendre par vaudou. Vaudou. Donc c'est un esprit qu'on ne comprend pas. Au-dessus de ce vaudou, il y a bien entendu un vaudou beaucoup plus fort encore, et qui est comme un souffle, un esprit, et qui n'est pas sur terre. Cet esprit-là, dans le milieu fond, ou dans le milieu mina ou peda, on l'appelle yéwi. Yé, c'est l'ombre, quelque chose qu'on ne saisit pas. Oui, petit, infini, un petit. Et pour parler de Dieu qui est au-dessus de tous les vaudous, eh bien, on allie parfois en disant « vaudou Yahweh ».
Origine du vaudou, très difficile à déterminer malgré toutes les recherches qui sont faites depuis longtemps. Quand même, très souvent, les chercheurs voient des origines dans la Méditerranée. Oui, il y aurait une origine commune aux mythologies et aux religions grecques puis romaines et à cette religion qu'est le vaudou. Et c'est vrai qu'il y a des analogies dans les panthéons, dans les personnages, dans ce polythéisme omniprésent et à échelle humaine. Il n'y a pas cet écrasement par un dieu suprême et rien entre lui et nous. Il y a au contraire un homme qui tâche d'être non pas comme Dieu, mais comme des petits dieux intermédiaires qui se haussent, qui se hissent et aussi qui, lui, connaissant ses divinités, c'est-à-dire ses vaudous, sait à quel point les vaudous lui confient de temps à autre comment ils aimeraient à redevenir des hommes, des humains, avec leurs défauts. Voilà comment notre ami Eustache Prudencio explique la, entre guillemets, genèse, c'est-à-dire l'origine du vaudou.
Vous avez le soleil, vous avez la lune, les montagnes, la mer, la forêt, le vent, Ah, ça paraît bizarre tout cela. À travers toutes ces manifestations, il doit y avoir un esprit fort. Donc, il faut s'attirer la protection de ces esprits forts ou bien leur demander des faveurs. Donc, il faut nécessairement adorer ces manifestations-là. Ainsi, ils ont commencé à adorer soit la foudre, le tonnerre, Révioso, soit la mer, voyez-vous, le Torosu, soit la forêt, une forêt dense, sombre, c'est une forêt bizarre, on respecte, une lagune où il y a une lagune poissonneuse, un lac poissonneux, est digne d'adoration. L'arc-en-ciel, on l'adore. Même les jumeaux sont considérés comme des dieux. Tout cela parce que l'Africain, au départ, avait peur. Sa surprise d'être noyé à travers tout cela, ça l'oblige à vouer un culte à toutes ces bizarreries qui l'effraient. Et à travers cela, eh bien, il a trouvé le vaudou, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas saisir et qui est à côté.
Le vaudou fait des éléments des divinités, transforme les éléments en divinités. Le vaudou transforme les ancêtres également en divinités. Culte vaudou à Plakodi Cotonou. Alors là, c'est un culte à un fétiche.
Oui, un fétiche, enfin, c'est un sous-groupe en quelque sorte du grand fétiche Abrékété.
Abrékété.
Oui.
C'est-à-dire c'est le personnage qui est peint là-bas sur le mur, voilà, avec une cloche.
C'est le grand féticheur.
Abrékété. Et les gens de ce quartier de Cotonou sont rendent hommage ce soir à ce fétiche.
Voilà. Et ça se fait sur des semaines. Vous voyez, ça peut durer une semaine, deux semaines.
Donc il y a les tambours qui sont là,
oui.
Et sur la petite place là, en terre et en sable,
oui.
Autour du petit arbre, il y a du public tout autour, il y a des enfants, il y a toute la population qui regarde de tous les âges, les petits devant, les grands derrière, et il y a des gens qui dansent depuis déjà un bout de temps. Et là, il y a une femme qui est en train d'entrer en possession.
En transe, oui.
Elle entre en transe.
Oui.
Elle est en train de marcher à quatre pattes. Elle a un bonnet blanc, un soutien-gorge blanc, un pantalon blanc. Et là, elle est dans un état second. Elle est possédée.
Oui, oui.
Voilà, elle est en train de marcher à quatre pattes avec les yeux révulsés.
Quand vous êtes initié, il y a une chanson principale qui vous est chère. Ouais, donc quand on... C'est le fétiche qui est en quelque sorte sur votre tête.
Ah.
Ouais. Donc quand on chante la chanson, alors tout de suite, le fétiche vous...
Le fétiche vient.
Vous prend, voilà.
Le fétiche vient. Il y a une autre femme là qui a été prise par le fétiche.
Oui.
Voilà, qui est en transe.
Et là, vous voyez, on ne porte pas de chaussures.
On est pieds nus, ouais.
On ne porte pas de chaussures, on ne s'habille pas. Vous voyez, c'est interdit. Oui. C'est ça. Tout à l'heure, ils vont changer de rythme et il y aura d'autres qui rentreront en transe.
Ouais. Alors, est-ce que c'est bon d'entrer en transe? Est-ce qu'on est heureux d'entrer en transe?
Non, on n'est pas heureux puisque vous pouvez faire... vous pouvez vous blesser. Ouais, vous pouvez, c'est-à-dire, vous ne vous possédez pas.
On considère que vous êtes chevauché.
Voilà.
Vous êtes chevauché, oui. Par le loi.
Oui.
C'est
ouais.
Ça.
Vous faites de n'importe quoi, ouais, vous agissez sans vous en rendre compte. Et puis après, on vous amène au couvent, on vous fait ce qu'il faut et vous revenez. Vous
qu'on est en train de taper maintenant.
Tambour.
Il y a trop de maladies. Hein? Sur la terre là.
Comme rougeole.
Comme rougeole. La terre là. Parce qu'il y avait un fétiche qui amène ça. Si on est en train de taper maintenant, toutes les maladies là vont partir. C'est à cause de ça qu'on est en train de taper. Contre la rougeole, fièvre jaune, tout, tout et tout.
Ah, ok. Et ça, ça se fait, on fait ça tous les ans? Chaque année?
Ça dépend.
Ça dépend de quoi? Ça dépend du fa?
Oui, ça dépend du fa.
D'accord. On fait le fa, c'est-à-dire qu'on fait les coquillages, hein?
Voilà, c'est ça.
C'est ça?
Après ça, maintenant, on fait la danse.
D'accord. Et le but, c'est d'écarter les mauvaises choses.
Oui, parce que dans le quartier, s'il y avait les mauvaises choses, c'est là on fait les tam-tam. Pour que, bon, on peut lui chercher. Que pas jusqu'à d'autres pays encore. C'est pas dans notre pays encore.
C'est une cérémonie que nos ancêtres a laissée. C'est une cérémonie fétichiste.
Hein?
Et en cas de Kessilia, le Sakwata agit sur nos sacres pas tuer nos enfants. Et on fait une cérémonie pour que les enfants ne se meurent pas. Si le Sakwata atteint les enfants meurent en désordre. Donc on est obligé de faire ce sacrifice pour racheter. Oui, pour racheter les enfants.
Donc les ancêtres ont laissé ça aux grands-parents, les grands-parents ont laissé ça à nos parents.
C'est ça.
Maintenant, nos parents nous ont laissé la main. Quand vous n'êtes pas initié, vous ne pouvez pas.
Moi qui suis, je suis un catéchiste. Mais c'est une cérémonie que. De toute façon, c'est une obligation, il faut le dire. En très clair, c'est une obligation.
C'est une obligation, c'est
tout
ça.
À fait.
Mais tu peux être catholique.
Catholique, pas.
Ça n'a rien à voir.
Non, ça n'a rien à voir.
Tu mélanges les deux choses.
C'est clair, c'est très important.
Ah, d'accord.
Il faut le dire.
Quand le moment vient, tout le monde participe.
Même les jeunes, toi, vous êtes jeune.
Aussi, je suis jeune. C'est pour inviter les petits problèmes du quartier.
Voilà le vaudou au Bénin, le vaudou et le foot, en préparation évidemment de ce que vous savez. Un reportage avec Guy Ventil. Merci aux habitants de Plocodi à Cotonou, à l'équipe des Dragons de Porto Novo que nous avions rencontrés, à l'équipe Postel, à M. Asino, à Jean-Luc Aplogan, qui nous avait donné un sérieux coup de main, à Eustache Prudencio, Romain Philippe Azoba et Zapata Fekete. Merci aussi à Marie Jarros de l'INA. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site là-bas.org. Et puis faites un tour sur la page Facebook de Là-bas si j'y suis. La technique aujourd'hui, Jean-Noël Vélan et Maxime Anna. L'émission a été réalisée par Lucie Acoun et Franck Aderer, a préparé avec Jonathan Duong et Stéphanie Fromentin. Attend vos messages sur le répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37. On se retrouve demain à 15h pour Là-bas si j'y suis. Dans l'immédiat, je vous laisse avec Hervé Pochon pour son temps de Pochon.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de Pochon, mais ça ne va pas durer.
Qu'est-ce qui se passe ici?
C'est le gala de solidarité du Fonds pour les femmes en Méditerranée.
Mais vous n'êtes pas de Méditerranée, vous?
Si, vu que je suis française. Il y a la Méditerranée en France.
Dans le sud, hein, parce que là, quand même, vous êtes bien blonde pour être du sud.
Moi, je suis toulousaine.
Moi, je suis montpelliéraine, en plus.
On est là en tant que bénévole, et femme et bénévole.
Bonjour à tous et bienvenue au Cabaret Sauvage à Paris, où se déroule une soirée de fonds de soutien aux femmes de Méditerranée. Les hommes, c'est pas la peine qu'ils passent par là.
Si, parce que la soirée s'appelle « Père et fière de ma fille ».
Qu'est-ce que vous venez faire, madame?
Moi, je viens soutenir ce gala merveilleux parce que c'est une association merveilleuse.
Vous dites que vous venez soutenir, mais vous êtes invité, vous ne payez pas votre place.
Ah oui. Non, mais en fait, je suis la présidente d'Amnesty International et je connais très bien Nadia. Et elle m'a demandé de venir pour les soutenir. Donc, je suis là pour ça, parce que je me bats pour tous les combats des femmes et surtout en Méditerranée, parce que moi aussi, je suis une Méditerranéenne.
Ah, vous êtes d'où?
Moi, oh, j'ai un père espagnol, une mère italienne, je suis née en Algérie et j'habite en France, alors vous voyez.
Bon, alors d'accord, enfin vous soutenez, mais vous ne payez pas les 30 euros, hein, d'accord. Bon,
non, okay. Mais je les soutiens tout le temps, tout le temps, mais je voulais payer. Hein.
Ah bon.
Voilà, merci.
Bon, merci.
Bienvenue au Cabaret Sauvage.
Je peux vous demander ce que vous faites, monsieur ?
Ce que je fais ? Ben écoutez, je viens me solidariser.
Pourquoi ?
Est-ce que la solidarité, il faut dire pourquoi ?
Oui, je pense, parce que aujourd'hui, on est très souvent sollicité pour être solidaire et finalement, on fait des choix. Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi à cause des femmes de la Méditerranée ?
Vous savez, d'abord, c'est ma mère, elle est méditerranéenne. Donc, si vous voulez, c'est...
Déjà, c'est une bonne raison.
Donc, le colostrum, il est méditerranéen. J'ai toujours vu ma mère, si vous voulez, transmettre l'amour, quelque chose qui est hyper important. C'est ce qui vous équilibre. Pourquoi maintenant nous retrouvons dans des sociétés déséquilibrées ? Parce qu'il y a une carence affective.
Et vous, cet amour, vous avez réussi à le transmettre à des enfants ?
Mes enfants, c'est mon CV. Vous savez, c'est mon CV.
Alors, vous avez combien d'enfants ?
3 enfants. Il n'y a pas une culture méditerranéenne, il n'y a pas une culture extra-méditerranéenne, il y a une culture. Vous savez, le colostrum, il nourrit la vie. C'est comme une goutte de sang.
Le colostrum, c'est
le premier lait maternel.
Oui, c'est ça.
Donc, le premier lait maternel, au plus profond de nous-mêmes, si vous voulez, on est dedans. On est dedans et c'est pour ça. Donc, il n'y a pas français, il n'y a pas d'origine, machin, il n'y a pas l'origine, il n'y a point, la vie. Moi, j'ai fondé une association ici qui distribue 800 000 repas par an aux gens défavorisés, qui s'appelle Une Chorba pour tous. On donne des cours d'alphabétisation, des cours de soutien scolaire. Donc, si vous voulez, bon, je ne me suis jamais retrouvé une France contre une autre.
Une Chorba pour tous, la Chorba, c'est...
C'est un Chorba. Écoutez, si je vous raconte les ingrédients, ça ne sera pas jamais une Chorba. Ça sera une soupe. D'accord ?
D'accord.
C'est pas la Chorba... C'est tout, elle porte tout en elle, si vous voulez, la valeur des traditions familiales, cette chaleur. C'est l'hommage qu'on rend à sa mère, à cette femme qui est généreuse et qui se dépense toujours pour sa famille.
Et vous faites quoi dans la vie ?
Là, je suis à la retraite depuis peu de temps, mais autrement, je suis de formation ingénieur télécom. Donc, je n'ai jamais fait de la charité business, j'ai toujours fait en sorte, dans un pays comme la France, qui m'a donné la possibilité de pouvoir asseoir mes connaissances. Donc, je souhaite, si vous voulez, qu'on ne dise pas... Il est d'origine, je veux le droit à l'indifférence, pas la différence. Et malheureusement, plus ça va, moins ça va. Croyant que certaines personnes, si vous voulez, qui nous ont dit pendant des années qu'ils aimaient les couscous, donc ils ne sont pas racistes, je commence à me faire rouler dans la semoule de plus en plus.
Je comprends. Et votre prénom ?
Hachmi.
Hachmi. Et vous êtes marié avec une Française ou avec une
Algérienne ? Avec une Algérienne.
Ah, quand même.
Non, pas du tout. Non, je vous jure que non. Je vais vous dire une chose. C'est comme la... Est-ce que maintenant, on peut... Vous savez, quelque part, en étant croyant, le bon Dieu vous a mis sur terre. Il m'a mis sur terre en Algérie, à Djaïa, en Kabylie. Il m'a fait traverser la Méditerranée. Est-ce que j'ai contrôlé quelque chose ? Non.
Oui.
C'est pas moi qui ai mené ma vie, c'est la vie qui m'a mené. Et du coup, bon, là, maintenant, je suis avec une Algérienne, mais je veux dire, j'aurais pu être une Chinoise, j'aurais pu être n'importe quoi. Je veux dire, c'est pas... Vous savez, une goutte de sang d'une Chinoise, d'une Algérienne, d'une Togolaise et tout, elle sauve la vie de n'importe qui. Donc pourquoi voulez-vous que je réduise l'image du monde à l'échelle de mon village ? Non.
Un des thèmes de la soirée... C'est fier de ma fille. Vous êtes fier de votre fille ?
Je vais vous dire une chose. J'ai une telle complicité avec ma fille, un tel amour entre ma fille, qu'il n'y a pas les mots. Je ne peux pas les prononcer parce qu'ils n'existent pas. Si vous voulez, c'est l'invisible que vous ne pouvez pas partager avec moi parce que c'est entre moi et elle.
Et vous lui avez mis le voile ?
C'est quoi ça ? C'est une option, ça ? C'est quoi le voile ? Pour se cacher de la misère des autres ?
Non,
je vais vous dire une chose, ça c'est un produit de fabrication occidentale, le voile. Vous savez, le Coran, c'est pas pour entrer dans le problème religieux. Le Coran, qu'est-ce que le premier mot du Coran, c'est Iqra. Iqra, ça veut dire c'est lit, c'est le symbole de la connaissance, c'est la lecture, c'est la connaissance, c'est le symbole de l'ouverture aux autres cultures. C'est pas un voile, si vous voulez, qui fait que vous allez vous élever, c'est ce que vous avez à l'intérieur.
Ça, je suis content d'apprendre quelque chose. Le premier mot,
c'est Iqra.
Iqra. Ben, je vous remercie.
Je vous en prie. Un temps de pochon, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain. Inch'Allah.
Hey, vous ? Oui, vous, derrière la radio. Vous faites quoi le 14 juin pour la journée mondiale des donneurs de sang ? Je dis ça parce qu'en moins d'une heure, vous pouvez sauver une vie. Des vies. Venez, on a besoin de vous.
Faisons du 14 juin un grand jour pour la vie. Donnons notre sang. Pour savoir où donner, rendez-vous sur dondusang.net. Ceci est un message de l'établissement français du sang.
Attention, vendredi nous serons vendredi 13, alors on n'oublie pas de croiser les doigts.
Ce vendredi 13, super loto de 13 millions d'euros minimum. Montant à partager au rang 1, voire règlement. Jouer avec XC comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Allô ?
Bonjour, c'est Denis de Tabac Info Service.
Ah, bonjour.
Alors, comment se passe votre arrêt ?
Pas facile. Je suis allé à une fête, les gens fumaient, j'ai dit non plusieurs fois et puis j'ai craqué.
Je comprends. Mais refumer quelques cigarettes, ce n'est pas forcément synonyme d'échec.
Ah, vraiment ?
Oui. Ce qui compte, c'est d'identifier les situations à risque, comme cette soirée, afin d'être mieux armé lorsqu'elles se présentent. Et si on en parlait ?
Pour arrêter de fumer, appelez Tabac Info Service au 39 89 15 centimes la minute et bénéficiez ensuite d'un suivi personnalisé gratuit par un tabacologue. 39 89, un service de l'INPES et du ministère de la Santé.
Il est presque 16 heures. Vous êtes en chemin pour récupérer votre père à la gare. Vous vous dites que limiter cette départementale à 90 n'a pas de sens. Vous vous dites que rien ne vous empêche de rouler à 110. Ce que vous oubliez, c'est qu'à cette vitesse, vous ne pourrez pas éviter ce tracteur à la sortie du virage. À cause de cet oubli, votre père vous attendra longtemps. Très longtemps.
On ne regrette de rouler trop vite que lorsqu'il est trop tard. Sécurité routière, tous responsables.
Vous écoutez France Inter, il est 16h. Les informations, Laetitia Gaillet, bonjour.
Bonjour, on ne connaît pas encore les prévisions de trafic, mais une chose est certaine, la grève des cheminots est reconduite pour demain. La CGT et Sudrail seront d'ailleurs reçues dans la journée par le secrétaire d'État au transport, Frédéric Cuvillier. L'UNSA sera à leur côté, le syndicat qui n'a pas pris part au mouvement attend de voir ce que vont donner les discussions, mais il a déjà déposé un préavis de grève pour la semaine prochaine quand le projet de réforme ferroviaire sera débattu à l'Assemblée. Les salariés d'Amazon à Saran dans le Loiret sont en grève. Aujourd'hui, ils dénoncent le résultat des négociations annuelles obligatoires insuffisant selon eux. Ils réclament des augmentations de salaire et des discussions sur le temps de pause que la direction veut modifier. 12 000 euros d'amende ont été requis contre un prêtre de Saint-Étienne à la retraite aujourd'hui. Le tribunal de police lui reproche d'avoir hébergé des sans-abri dans un local paroissial. Le jugement a été mis en délibéré au 10 septembre prochain. Les insurgés de l'État islamique en Irak et au Levant détiennent 78 ressortissants turcs à Mossoul. Parmi eux, 3 enfants et le consul général. Tous sont sains et saufs. Ils sont actuellement rassemblés dans une base des islamistes. Depuis hier, les djihadistes occupent la ville de Mossoul, donc la deuxième ville d'Irak. Ils poursuivent leur avancée, qu'ils appellent « invasion bénie ». Ils poursuivent leur avancée donc sur Kirkouk et plusieurs régions des environs. On signale d'ailleurs des combats violents entre soldats et rebelles à Tikrit, l'ancien fief de Saddam Hussein. Tikrit est à 160 km au nord de Bagdad, et la police affirme cet après-midi que la ville est tombée entre les mains des rebelles. Un appel à souscription a été lancé aujourd'hui pour rénover la maison de Léon Blum. Il s'agit d'une fermette du XVIIIe siècle située à Jouy-en-Josas dans les Yvelines. C'est là que le leader du Front populaire y a fini sa vie avec son épouse. Le maire de la ville veut en faire le foyer de rayonnement de sa pensée. Le coût des travaux est estimé à 1,2 million d'euros. Quoi voir du Mondial Santé Fin et Bing Sport ? Eh bien, un accord a été trouvé aujourd'hui à la veille du début de la compétition. Il va permettre aux autres chaînes de télé d'acquérir des extraits des matchs du Mondial, au-delà en fait du simple droit à l'information, c'est-à-dire 1 minute 30. Les chaînes pourront ainsi utiliser un maximum de 2 minutes d'images pour un seul match ou 3 minutes de rencontres cumulées par édition d'information, et ce dans un maximum de 24 heures après la fin du match concerné. Toujours à propos de foot, mais du jeu, cette fois chacun son pronostic pour la France dans ce mondial. À la sortie du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement a livré le sien aujourd'hui pour le premier match des Bleus dimanche contre le Honduras. Victoire 2-1 pour les hommes de Deschamps selon Stéphane Le Foll. Stéphane Le Foll qui s'y connaît puisqu'avant d'être ministre dans le passé, il fut joueur et titulaire également d'un diplôme d'entraîneur. Vous écoutez France Inter, il est 16h02.
Ce soir sur France Inter,
Bernard Lavillier en direct des Nuits de Fourvière.
Une soirée présentée par Rebecca Manzoni.
Une rencontre avec Lavillier jusqu'à son entrée en scène, suivie de son concert en intégralité, c'est...
Une soirée à suivre ce soir sur France Inter à partir de 22h. France Inter.
La voix est libre.
Il est à mes côtés, Monsieur Lodéon, bonjour.
Et bonjour Madame Gaillet, chère Laetitia, on se retrouve à 17h pour d'autres informations.
À tout à l'heure.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, c'est l'anniversaire de sa naissance. Richard Strauss, pianiste, chef d'orchestre, compositeur, surtout né le 11 juin 1864 à Munich, d'un père corniste fameux, d'une humeur assez difficile à supporter, n'est-ce pas, Richard Wagner ? Parce que ce corniste-là détestait Wagner, pourtant il a donné le prénom de Richard à son fils. Quelquefois, vous savez, l'amour et la haine, c'est assez proche. Et la maman de Richard Strauss, c'était la fille d'un riche propriétaire de brasserie munichoise. On fabriquait de la bière, et d'ailleurs, Richard Strauss, toute sa vie, a bien aimé boire de la bière et jouer aux cartes. Ça n'a pas empêché d'être un génie, comme certains compositeurs germaniques, comme le petit Schubert, le petit Mendelssohn, le petit Mozart, bien sûr. Et Richard, tout jeune, écoutait avec un vif plaisir le cors de son père, mais il pleurait en entendant jouer du violon. À 12 ans, il a déjà écrit une petite marche, qu'on appelle marche festive ou solennelle. En voici un extrait. Conclusion de la marche festive ou solennelle de Richard Strauss, opus 1, voilà, vraiment le tout début de ce gamin de 12 ans. Son père l'a aidé pour l'orchestration, évidemment. D'ailleurs, c'est le père qui a dirigé avec un orchestre d'amateurs pour la première fois cette petite pièce bien traditionnelle, on va dire. Et nous avons entendu l'orchestre symphonique de Bamberg, dirigé par Karl Anton Rickenbacher. Et Strauss, doué comme tout, né dans la musique, dans un milieu favorisé, bien sûr, a eu aussi une passion pour la littérature. Il lisait beaucoup de choses, beaucoup de romans, mais aussi des livres de philosophie. Il a rencontré du point de vue spirituel Nietzsche, par exemple, et ça lui a donné l'idée d'écrire Ainsi parlait Zarathoustra, un poème symphonique composé en 1896, donc il avait 20 ans. Et au fond, ce qu'on dit toujours sur Richard Strauss, c'est que d'un côté, il a été un conservateur, il a prolongé le génie de Mozart, des époques très tardives, et puis en même temps, il a été d'une audace assez extraordinaire qui faisait peur. Certains de ses opéras ont terrifié les auditeurs au début, Electra par exemple, même Salomé, les sujets étaient évidemment assez pointus, et puis aussi la musique quelquefois assez dissonante. Son Zarathoustra, le début, le lever du soleil, était assez moderne pour impressionner Stanley Kubrick, rappelez-vous de 2001 Odyssée de l'espace.
Thank you.
Le tout début, le lever du soleil du poème symphonique ainsi par les Zarathoustra de Richard Strauss, par l'Orchestre symphonique de Chicago dirigé par Fritz Reiner. Évidemment, cette musique-là n'a rien à voir avec la petite marche du début, mais évidemment, il y a plein de paliers. Je ne prétends pas aujourd'hui faire le tour de l'œuvre de Richard Strauss. Je signale que sur Arte ce soir, et moi je tâcherai de ne pas rater ça, il y a un concert donné par la Staatskapelle de Dresden, donc l'Orchestre d'État de Dresde, sous la direction du grand allemand Christian Thielemann. Et il y aura plein d'airs d'opéra, entre autres, des airs fameux ou moins fameux, des morceaux instrumentaux de Richard Strauss. Et après, il y a une émission, un document, un inédit d'ailleurs, un génie controversé. Alors on dit d'ailleurs, ce que je trouve aussi, qu'on l'a souvent célébré comme avant-gardiste ou décrié comme réactionnaire, Strauss, un des plus brillants compositeurs et chefs d'orchestre de la fin du 19e et du 20e siècle.